Et nous retrouvons Marion pour une nouvelle chronique culture par chez nous. Marion, bonjour.
Salut Rodolphe.
Chaque mercredi de l'été, Haute Corrèze Communauté et Radio Vassivière vous font découvrir des trésors de notre territoire, des sites, des événements, des initiatives culturelles ou des associations qui font vibrer la Haute Corrèze et que nous souhaitons vous partager. Pour cette nouvelle chronique culture par chez nous, Marion, nous partons sur les traces du Taco à l'endroit où il traverse les gorges de la Luzège.
Et oui, aujourd'hui nous sommes vapeur et acier, nous sommes vallées et viaducs, nous sommes locomotives et ouvrages d'art. Nous partons sur les traces du Taco, ce tramway à vapeur le plus utilisé de Haute-Corrèze qui a relié Ussel à Tulle de 1913 à 1960. Nous partons retrouver l'histoire de ce formidable petit train local au plus bel endroit qui soit, là où il enjambait les gorges de la Luzège à 90 mètres au-dessus de la rivière. Trait d'union élégant entre les deux falaises, s'étire encore le viaduc des Rochers Noirs. Sur son tablier, passait le Taco, reliant Soursac à La Plot, de part et d'autre de la vallée. Nous avons rendez-vous avec Roger Fraisse et Bernard Gaël, président et trésorier de l'association Astre. L'association Astre veille depuis 30 ans sur le viaduc des Rochers Noirs et sur la mémoire du Taco. Ils en connaissent tous les secrets. Roger et Bernard nous attendent dans le jardin de Firmin, à quelques centaines de mètres du bourg de Soursac. Une petite cabane aux couleurs des gares du Taco, rouge-brun, des vignes en terrasse, un potager, des fleurs, des ruches, des bancs et une terrasse ensoleillée. Une invitation parfaite à la flânerie en ce lundi après-midi. Ce qui fait la richesse de ce bout de terrain à flanc de colline acheté, puis patiemment aménagé par l'association, c'est la vue spectaculaire qu'il offre sur la vallée de la Luzège et le viaduc des Rochers Noirs. À couper le souffle.
Nous sommes sur une vallée complètement ouverte, la vallée de la Luzège, et on aperçoit ce viaduc qui enjambe la vallée à 90 mètres au-dessus de la rivière. Et dans un écrin de verdure, je disais tout à l'heure, de feuillus, en particulier, il n'y a pour ainsi dire pas de résineux, ce qui maintenant devient de plus en plus rare. Et c'est un paysage qui est magnifique dans toutes les saisons, que ce soit maintenant, on pourrait dire en été, puisque cette année on est en avance, que ce soit à l'automne où les couleurs sont beaucoup plus ternes, mais la vue tout aussi belle, et au printemps, c'est celle que je préfère certainement, où on commence à voir d'abord les taches de cerisier blanc qui pointent à droite, à gauche, et qui entourent ce magnifique viaduc.
Assis là, les yeux perdus dans la vallée, on s'imagine dans les années 30. Le bon vieux Firmin vaque dans son jardin, entouré des chèvres. Il les surveille d'un œil. Soudain, c'est le Taco qui passe en contrebas du jardin, jusqu'à 6 fois par jour, soit 3 allers-retours Tulle-Ussel dans la période faste du Taco. Firmin rassemble ses chèvres et agite la main. La locomotive Pigalle lui répond, suivie de ses wagons transportant marchandises et voyageurs.
C'était d'abord un coup de sifflet pour chasser les chèvres, un autre pour dire bonjour à Firmin.
Roger et Bernard m'aident à imaginer ce que c'était ce Taco à l'époque, ce qu'il a pu représenter dans la vie des gens et du territoire entre les deux guerres. Il a transporté jusqu'à 70 000 passagers par an. C'était soudain la possibilité d'aller rapidement à la ville, d'y apporter ses marchandises, d'en rapporter des trésors. De l'ouverture, de la mise en lien, un souffle nouveau.
Il faut savoir que le train, il part de Tulle, il va jusqu'à Ussel, 100 km de voie. Il traverse, alors il y en a un autre qui va de Tulle et qui va à Ussel, mais il ne prend pas le même trajet. Parce que notre Taco, nous, il traversait 5 cantons et 28 communes. Donc c'était vraiment pour désenclaver, à cette époque-là, des campagnes où il y avait beaucoup de monde qui vivait à l'époque, hein. Et où il n'y avait pour aucun moyen de transport. Le moyen de transport, c'était les animaux, c'était les vélos ou la marche à pied. Donc le petit train, il était très utile pour faire déplacer les gens. Il se déplaçait beaucoup pour les marchés, pour aller voir le médecin, pour aller à la ville chercher des papiers ou tout un tas de choses comme ça. Et puis pour les marchandises. Alors les marchandises, il y a eu beaucoup de transports de bois. Et il y avait aussi des transports de fruits. On parlait aussi de transports d'animaux. À 5 heures du matin, les bouchers arrivaient avec leurs veaux, coupés en morceaux. Ils les mettaient dans le train. Et ces veaux, ils partaient à 6 heures du matin de Soursac. Et à 11 heures du soir, ils étaient au Halles, à Paris. Et le lendemain, ils étaient vendus à Paris. Alors le train, c'était aussi le lien pour les colis. tous les colis arrivaient par le train. C'était vraiment un rôle de désenclavement très, très, très important.
Le TACO, c'était aussi le train des nouvelles.
Il y avait un wagon postier, un wagon vraiment, avec des petites cases pour faire les tris en chemin. Et le préposé à ce travail était généralement un blessé de guerre.
Et durant la Deuxième Guerre mondiale, le TACO fut aussi le train du maquis.
C'était au temps du travail obligatoire, vous savez, le STO. Alors, à Soursac comme ailleurs, des jeunes étaient appelés, avaient reçu une invitation pour se rendre en Allemagne, bien entendu. Et la plupart du temps, c'était en 1943, le maximum, je pense, par là. Et donc, ces jeunes commençaient à ne pas vouloir y aller. Si certains y sont allés, pas tout le monde. Et alors, j'ai même assisté à une situation que je vous raconte, c'est-à-dire que la famille... Et les amis allaient accompagner, par exemple, à la gare de Soursac, un jeune qui avait reçu sa feuille pour partir au STO. Eh bien, ils étaient tristes, etc. Et moi aussi, voyant la situation. Mais en vérité, arrivé ici où nous sommes, ils descendaient du train et gagnaient la gorge pour aller rejoindre les maquis qui se formaient ici, par exemple, à Saint-Mère-de-la-Plou en particulier.
Je suis Roger et Bernard à travers le jardin. On descend jusqu'à l'ancienne voie sur laquelle passait le TACO. C'est aujourd'hui une route bitumée. Après le dernier passage du train à vapeur, à l'aube des années 60, la voie a été arrachée, le ballast écarté et la piste goudronnée. Oubliez les rails, s'ouvrait l'ère de l'automobile souveraine. Pourtant, le long de cette ancienne voie ferrée, devenue route bitumée, l'association Astre a décidé de faire revivre le souffle du TACO. Ce n'est pas encore le grand musée dont il rêve, mais ça commence à s'en approcher. Avec la commune de Soursac et le pays d'arrêt d'histoire Haute-Corrèze-Ventadour, l'association a travaillé ces dernières années sur un parcours d'interprétation inauguré fin 2019. Un parcours en images et en sons, en accès libre toute l'année, pour revivre l'aventure du TACO.
Donc c'est un parcours qui fait 6 km aller-retour. Donc de la plateforme des Tournadou, il y a les 3 km pour descendre au viaduc et après on revient. Et ce parcours est parsemé donc de bornes, d'informations sur l'histoire du TACO, sur la faune, sur la flore, sur l'architecture, la construction du viaduc, et des bornes sonores. Alors, des bornes sonores qui sont un peu la surprise quand on va dans le tunnel avant l'entrée du viaduc. Et puis il y a une borne sonore qui doit être mise en place ici à la cabane de Firmin.
Une nouvelle borne sonore qui fera entendre les voix de ceux qui ont connu le TACO. Partage intime d'anecdotes et d'histoires qui se sont tissées autour de ce cheval de fer à vapeur.
Et il portait la chaux, il portait les engrais, et les marchandises et tout ça. Qu'est-ce qu'il s'en chargeait de wagon? Qu'est-ce qu'il s'en chargeait? Ah là là, on était dans les chambres, on est peine de le voir passer, s'il descendait sur Tulle avec des wagons de bois ou comme ça. On disait, il y a tant de wagons aujourd'hui. Et encore, pour monter, vous savez, c'était dur, on l'entendait. Et boum, et boum, et boum. Et souvent dans les tournants, il déraillait ou comme ça. Oh là là. Oh, ça marchait pas toujours tout droit, le TACO. Et bien malgré tout, voyez, il faisait du dégât, mais on la plaigne. Parce qu'on était dans les champs, on travaillait. Et on entendait, on disait, tel TACO monte, c'est telle heure, il faut aller faire ça ou autre, enfin, comme ça.
Tandis que je rêve à ces sons venus d'autres époques, Roger et Bernard ont filé sur l'ancienne voie ferrée, en direction du viaduc. Je les rattrape. Ils m'indiquent, à gauche de la voie, à un canal d'eau guidé par un muret de granit. L'eau canalisée passe sous la voie ferrée, au creux d'un aqueduc, à la voûte superbe toute de pierre taillée. On aimerait s'y glisser. Ces aqueducs évitaient que l'eau ne s'accumule et ne détruise peu à peu le remblai sur lequel passait le train. L'association a dû restaurer ce canal afin de préserver le remblai. Un travail titanesque mené à la main tout un été durant par les quelques bénévoles de l'association.
Par exemple, là-bas, le canal, vous voyez, il y avait une partie qui était complètement écroulée. On a refait le canal pour que l'eau puisse aller sous les aqueducs. Et on va s'approcher de l'aqueduc. Vous allez voir, ces aqueducs en pierre de taille, les mêmes pierres que celles du viaduc. Et si on passe à côté, on ne les voit pas. Et il y en a 5 ouvrages de ce type-là, depuis Soursac et ici.
Nous poursuivons notre progression sur l'ancienne voie ferrée. Passage à travers un premier tunnel... Puis un deuxième, celui creusé dans le rocher noir, dit aussi la roche taillade en patois, le dernier tunnel avant le viaduc.
On raconte que c'est les institutrices de l'Aplo qui n'étaient pas contentes quand les petits-enfants parlaient de roche taillade, parce que c'était du patois encore et qu'il fallait parler le vrai français, donc c'est pour ça qu'on a gardé le nom plutôt des rochers noirs. On arrive sous ce tunnel qui fait 130 mètres, donc, qui est en courbe et qui va nous amener tout de suite à l'entrée du viaduc. Alors ce tunnel, ce qu'il faut imaginer, c'est qu'il a été percé donc, par les ouvriers. Ils ont commencé des deux côtés. Il y avait une équipe qui commençait de ce côté et il y avait une autre équipe qui passait par le petit sentier qui est sur la droite. Là. On vous montrera l'arrivée du sentier là-bas tout à l'heure, c'était assez varape. Et ils se sont bien retrouvés au milieu et ça nous donne ce magnifique tunnel qui est bâti sur les deux extrémités mais qui est brut à l'intérieur. On pourra même vous montrer les traces de baramine là où on mettait le bâton de dynamite pour faire sauter le rocher.
Le chantier du tunnel s'est déroulé en 1910. Les travaux du viaduc lui-même ont débuté en 1911. Tandis que sur place, on menait les travaux de maçonnerie pour élever les deux piles du pont, à Châteauneuf, dans la cour d'une usine, on assemblait les éléments du viaduc.
Le pont lui-même, ça a été relativement rapide, puisqu'il a été construit, on disait tout à l'heure, dans la cour de l'usine à Châteauneuf-sur-Loire, et était transporté en pièces détachées, et remonter ici sur place.
Oui, un peu de temps. Il a dû arriver ici vers le printemps 1912. Et un an après, on l'essayait, en mai 1913. En une semaine, c'est pour dire que si cette entreprise et l'homme en question, Ferdinand Arnaudin, était sûr de son fait. Il avait construit Mont-Louis avec l'inventeur Albert Gisclard, donc quelques années avant. Et arrivé ici, donc il savait ce qu'il allait faire et il trouvait même que ça tombait très bien, y compris la gorge, elle se présentait très bien. Donc avec les ancrages d'abord, les piles ensuite sont montées, et puis quand le système a été prêt à attendre les pièces qui avaient déjà été montées dans la cour de l'usine à Châteauneuf, numérotées, vérifiées, longueur, tout, on a déplacé tout ça avec les charrois de l'époque, et puis on a amené ça donc à Roche-Taillade, ici, donc chez nous. Et ça a été monté, je vous dis, en l'espace d'une année, pratiquement, je crois.
300 tonnes de matériel. Le viaduc, il pèse 300 tonnes. Oui. Et le premier train, le train des essais qu'ils ont fait passer dessus, le 8 mai 1913, Et il faisait 140 tonnes. Oui. C'est impressionnant, quand même, ces chiffres.
Ça y est, nous y sommes. Nous nous dressons sur le début du viaduc, à 90 mètres au-dessus de la Luzège. Au-dessus de nous s'élève une immense arche creuse en pierre de granit taillée, l'une des deux piles du pont. Devant nous s'étend le tablier du pont, comme simplement posé entre les deux piles, là où passait le train. Entre le tablier et les piles, de grands câbles d'acier s'étirent, élégants, résistants et légers à la fois. Ils forment de grands triangles qui s'entrecroisent. C'est dans ces triangles, m'explique Roger, que réside toute la spécificité du système de pont Gisclard. Ce polytechnicien avait imaginé un pont suspendu pouvant encaisser le mouvement particulier d'une locomotive.
Son système consiste surtout à avoir des suspensions formées de triangles. Le triangle, je vous dis, étant indéformable, une figure indéformable, eh bien, ça communique toute la qualité à la nappe des câbles de chaque côté. Et le système ne bouge pas. Ici, il a passé pendant, donc de 1913 à 1958, des trains sur ce pont et jamais il n'y a eu le moindre problème, évidemment, avec des locomotives.
Bernard et Roger me montrent des photos du chantier du viaduc. Impressionnant numéro d'équilibriste en noir et blanc. Là, au-dessus des câbles, comme suspendu dans le ciel, je découvre celui qu'on a appelé l'oiseau de la Luzège.
C'était le monsieur qui passait le goudron, le coltard, sur les câbles. Et il faisait ça sans échafaudage, sans harnais. Il avait simplement une ceinture bien serrée autour de lui avec un bout de corde de 3 mètres au cas où il tombe, et deux petites planches. Et il racontait comment il se déplaçait sur ses câbles avec ces deux petites planches en les avançant d'un peu. Il avançait 50 cm, il mettait les genoux dessous, il récupérait celle de derrière, il la passait devant. Et tout ça perché donc à 100, 110, 120 mètres au-dessus de la rivière, sans jamais tomber. C'était l'oiseau de la Luzège.
Le soleil du jardin de Firmin s'est enfui, le ciel s'est assombri, l'orage approche. Le viaduc semble plus impressionnant encore, ainsi suspendu face aux éléments qui se déchaînent. Roger et Bernard l'observent. Ils aimeraient le sauver, ce viaduc, le faire revivre. Depuis les années 80, il est fermé. Plus personne ne l'emprunte pour aller de Soursac à La Plot, encore moins à Taco. Depuis que le train n'y passe plus, ce viaduc, personne ne l'a entretenu. Trop cher, pas prioritaire. Pourtant, Bernard et Roger ont un espoir, celui d'un dossier déposé cette année par le département auprès de la mission Berne. Après l'inscription du viaduc à l'inventaire des monuments historiques dans les années 2000, un soutien national de la mission Berne serait l'étincelle qui rallumerait le projet d'un viaduc qui pourrait de nouveau relier Soursac à La Plot et, pourquoi pas, accueillir un nouveau taco transportant des curieux aux yeux écarquillés. En attendant, vous êtes les bienvenus au Jardin de Firmin et sur le sentier d'interprétation du taco. Tous deux sont ouverts au public toute l'année. Et si c'est une vraie visite commentée que vous souhaitez, n'hésitez pas à contacter Bernard ou Roger. Vous ne pourrez résister à leur plaisir de partager la mémoire du taco et du viaduc des Rochers Noirs.
Marion, j'ai gardé le silence durant toute cette chronique, fascinée par le sujet, mais me voilà de retour pour mon habituelle question finale. Quelle musique pour conclure cette chronique sur le viaduc des Rochers Noirs et du taco ?
On est dans les années 40, on monte dans le wagon A du taco avec Duke Ellington et c'est parti.